les institutions fonctionnaient à 6, elles avaient été conçues pour un nombre restreint. On a révisé effectivement au fil du temps, mais il est vrai aussi que d'abord, on ne gère pas un groupe à 6 comme à 27. Le deuxième point est qu'il y a indubitablement une forme de dérive d'une ambition qui était de nature beaucoup plus politique au bénéfice de ce grand marché que l'on se contente d'encadrer par des directives farouches et précises. Autrement dit, j'ai parfois tendance à dire, sans tomber dans les stéréotypes, que la voie britannique de la grande zone européenne de libre-échange a gagné par rapport à un projet beaucoup plus intégré et d'une certaine manière beaucoup plus ambitieux et difficile.
Le traité de Rome, une Europe à 6, aujourd'hui une Europe à 27. Est-ce que vous parleriez d'une crise de confiance 50 ans après, qu'il y a un acquis européen et que finalement ça intéresse moins les populations en tout cas?
Je ne pense pas que les populations soient moins intéressées. Ce que je crois, c'est que plutôt que de recourir à un discours très souvent intellectualisant, le citoyen demande que l'on se préoccupe de ses problèmes. Dans l'espace européen, combien de dizaines de millions de citoyens ne sont-ils pas en dessous du minimum vital, par exemple? Pensons à la situation dramatique du niveau de vie parmi les nouveaux arrivants. Mais du côté de la France ou du côté d'autres pays, nous sommes aussi confrontés à une mutation de société qui entraîne avec elle énormément de désespérance, au plan social, par exemple. Et donc, ce n'est pas avec des discours qui précisément tournent autour du grand marché, qui tournent autour de la réforme de ce que j'appellerais la plomberie institutionnelle, que l'on est censé toucher le citoyen. Le citoyen est en demande d'Europe indubitablement, mais d'une Europe plus humaine, plus proche de lui. Et à ce moment-là, je crois que le projet européen est tout à fait susceptible de redémarrer sur de nouvelles bases.
Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait remobiliser les citoyens européens? Quel est l'objectif pour redonner un petit peu de carburant dans le moteur?
D'abord et avant tout, il y a une question essentielle qui est celle d'une Europe sociale, notamment en termes d'harmonisation plus prononcée de la sécurité sociale et de tout ce qui l'accompagne, qui permettrait sans doute aussi d'écarter, pour une part, le spectre des délocalisations. La deuxième chose est que, en matière d'Europe de la sécurité et de la défense, je crois qu'il y a là aussi un terrain à explorer davantage, une défense commune qui devienne une défense intégrée, non pas parce que l'Europe se voudrait une sorte de foudre de guerre, mais parce que c'est une forme d'affirmation incontestable et qu'il faut être un tout petit peu candide aussi. Aujourd'hui, je prendrai trois signaux à mon sens déterminants. La Russie annonce des investissements significatifs dans ses forces armées pour les moderniser. Le Japon a abandonné son héritage au bénéfice de la reconstruction d'une marine et d'une armée de ce nom. Et si nous nous tournons vers la Chine populaire, avec 3,5 millions d'hommes sous les drapeaux, c'est de quoi déclencher ou en tout cas soutenir l'équivalent de 10 guerres en Irak. Et donc, de temps à autre, je donnerai raison au général de Gaulle quand celui-ci disait « Il ne suffit pas comme un cabri de sauter sur place en criant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Il y a une pratique, mais cela ne se résout pas en trois coups de baguette magique comme d'aucuns l'imaginent.